Alphonse Karr, Bourdonnement, Fragment 2. Voici le prince Napoléon Jérôme, qui est venu apporter au parti bonapartiste une nouvelle cause de division. Ce parti, de l'aveu d'un de ses membres les plus ardents, compte aujourd'hui 3 sous-partis, les rouéristes, les jérômistes et les épileptiques. Il paraît que la guerre que le fils de Jérôme veut faire à son petit cousin ne sera pas difficile ni bégueule sur le choix des armes et des moyens. Plusieurs journaux ont publié à ce sujet une pièce assez curieuse. Un des procédés de propagande adoptés concurremment par les légitimistes et les bonapartistes a été l'émission de nombreuses photographies, et c'est sur les beautés de leurs candidats, le charme de leur visage, qu'ils semblent compter pour leur concilier les cœurs. Yeux, col, sein, port, teinte, taille, en eux tout est charmant. Cela se comprendrait mieux si le suffrage dit universel n'excluait pas la moitié de la nation, c'est-à-dire les femmes, du droit de vote. Et après dire, je n'ai jamais pu trouver de raison suffisante de cette exclusion. Le comte de Chambord, Henri V, disent les légitimistes, a un front, a des yeux, a une physionomie, a surtout une voix. Oh, quelle voix! Le prince impérial, disent les bonapartistes, a la beauté de sa mère, et comme elle a le cou un peu long, portant gracieusement la tête en avant, malgré sa jeunesse, on voit déjà qu'il aura la poitrine large, etc. Ah! Il s'agit de portraits, s'est dit le fils de Jérôme. Eh bien, je suis moi-même un portrait. Je suis le portrait vivant de l'empereur Napoléon Ier. Les autres, ni le père ni le fils, ne lui ressemblent en rien. Il y a pour cela une raison bien naturelle, c'est qu'ils ne sont pas de la famille. Et là-dessus, on montre en petit comité et l'on menace de publier le fac-similé d'un testament de Napoléon Ier qui contiendrait ceci. Napoléon Ier prévoyait l'extinction de sa descendance directe. Dans le cas du décès du roi de Rome, il recommandait à ses héritiers d'écarter du trône la branche du roi Louis de Hollande, sous ce prétexte que le roi Louis avait été l'un des premiers à l'abandonner dans la mauvaise fortune, et peut-être aussi parce que la légèreté bien connue de la reine Hortense n'était guère de nature à garantir l'intégrité de sa race. C'est vif. Ceux qui vivaient étaient un peu répandus vers 1836, à l'époque de la première tentative de Louis Bonaparte, et qui avaient vu la révolution de juillet se faire au cri bizarrement incohérent de « Vive Napoléon et la liberté », s'étonnaient qu'une revendication de la succession du trône impérial, revendication qui ne pouvait s'appuyer que sur la légende napoléonienne, vulgarisée, embellie, ornée, enjolivée par presque tous les écrivains du temps, comme arme de guerre contre la Restauration, Victor Hugo, Béranger, Monsieur Thiers, etc., et des journalistes comme Errand Carmel et à peu près tous libéraux, fut faite par un neveu de l'empereur. Et par ce neveu-là, lorsqu'il y avait à Paris deux fils de Napoléon parfaitement connus, l'un dans le monde et y jouissant d'une légitime considération, le comte Walewski, et l'autre un peu en dehors du monde, un certain comte Léon, qui, dans un procès intenté à sa mère, femme d'un diplomate allemand et gagné contre elle, avait fait judiciairement constater son impériale extraction pour revendiquer une somme d'argent que lui avait laissé son père. Celui-ci présentait une particularité singulière, c'était une ressemblance des plus frappantes avec Napoléon Ier. Il était lié avec Nestor Roqueplan, alors rédacteur en chef du Figaro. Je me souviens qu'un matin, arrivant à la cité bergère, je le trouvais faisant des armes avec Nestor. Je pris le fleuret à mon tour, nous déjeunâmes ensemble et passâmes plusieurs heures ensemble. Nestor s'apercevait de l'attention que je portais au visage du jeune homme et me dit « Oh, je vois ton étonnement !» Mais je vais d'abord la croître et je te l'expliquerai ensuite. En effet, nous vîmes bientôt entrer Étienne, un coiffeur de la rue Vivienne, auquel le Figaro d'alors avait fait une célébrité. « Vous allez, lui dit Nestor, couper les cheveux à monsieur en vous conformant au modèle que voici. » Et il jeta sur sa toilette une pièce de 5 francs à l'effigie de Napoléon Ier. L'artiste se mit à la besogne avec toute l'application possible, et l'opération terminée, la ressemblance était si frappante qu'Étienne, enthousiasmé, s'écria « Vive l'empereur !» Le comte Léon a depuis borné son ambition à devenir, après des luttes longues et opiniâtres, colonel ou lieutenant-colonel de la garde nationale de Saint-Denis. Faute des fils de Napoléon, tous deux alors bien connus à Paris, il semblait que, si la légende devait adopter un des neveux de l'empereur, c'était celui qui, sans avoir avec lui une ressemblance aussi frappante que celle du comte Léon, possédait cependant cette ressemblance à un degré très remarqué. C'était Napoléon, fils de Jérôme. Il est vrai que le prince avait pris de l'embonpoint encore très jeune, et la première fois que je le vis, c'était à Saint-Germain, à Monte-Cristo, chez Alexandre Dumas. Et Dumas, en me reconduisant, me dit « Hein, quelle ressemblance !»« Oui, lui répondis-je, il ressemble à Napoléon, mais à Napoléon au retour des îles d'Elbe. » En effet, Napoléon, à l'époque qui précède les 100 jours, avait singulièrement engraissé. Ses traits s'étaient empâtés et étaient devenus assez différents des traits de l'empereur de 1804 à 1812, et tout à fait différents de ceux de Bonaparte, premier consul. Ce n'est pas la première fois qu'il court ou que l'on fait courir des bruits peu favorables à la légitimité de la naissance de Louis-Napoléon, légalement fils de Louis, roi de Hollande et d'Hortense Beauharnais. Il faut dire que des bruits de ce genre, des bruits au moins de suppositions d'enfants, n'ont jamais manqué à aucune naissance d'héritier d'un trône né à propos. On ne les a pas ménagés à l'occasion du duc de Reichstag, de Napoléon Ier et de Marie-Louise. On ne s'en est pas privé à propos de la naissance posthume du fils de Caroline de Naples et du duc de Berry, assassiné à l'opéra par Louvel. Le duc de Bordeaux, depuis comte de Chambord. On comprend que l'appui est venu plus tard donner à la malveillance, et très probablement à la calomnie, l'aventure de sa mère en Vendée et au château de Blaye. Ces rumeurs, naturellement inventées ou fomentées par les ennemis politiques, sont tellement connus, tellement prévus même, qu'il en est sorti l'usage peu décent de faire accoucher les reines presque en public. On ne doit donc pas attacher plus d'importance qu'il ne convient à ces potins politiques. Je n'aurai pas le premier levé ce lièvre, dont je connaissais cependant le gîte, et je n'en parle qu'après des journaux, mais il peut être d'un certain intérêt de voir ce qui a pu donner lieu aux bruits qui ont couru ou que l'on a fait courir sur la naissance de Napoléon III. Bruits auxquels Jérôme, le frère de Napoléon et son fils, ne se privait pas de faire des allusions très détaillées lorsqu'ils étaient mécontents du neveu et du cousin auxquels, cependant, ils devaient leur fortune. Je vais à ce sujet feuilleter des mémoires qui ont été publiés peu de temps après les événements sur la cour de Louis-Napoléon, roi de Hollande. Outre l'origine des bruits que l'on prête au prince Jérôme, l'intention d'exploiter, j'y cueillerai quelques détails curieux sur les relations de Napoléon Ier avec ses frères. L'auteur de ces mémoires, publié par l'avocat, dit de lui-même l'auteur, par ses fonctions et ses relations sociales, placé sur le théâtre des événements, a vu se dérouler sous ses yeux les scènes qu'il raconte. Il a assisté à la représentation, il a connu et fréquenté les acteurs qui y figuraient. C'est en 1802 que Napoléon maria son frère Louis à Hortense Fanny de Beauharnais, fille de Joséphine, Et il n'avait, disent les contemporains, consulté ni le cœur ni le goût de l'un de l'autre des deux époux. Des bruits même, probablement issus des calomnies, avaient couru sur l'affection que Napoléon portait à sa belle-fille. Ce mariage peut être cité entre ceux qui n'ont pas eu même leur lune de miel. En 1806, une députation de la République batave, composée du vice-amiral Verhuell, etc., vint offrir la couronne d'Hollande au prince Louis, qui ne s'appelait déjà plus Louis Bonaparte, mais Louis Napoléon, le nom de baptême du brillant général, du premier consul, de l'empereur étant devenu le nom de famille de tous les Bonaparte. Cette ambassade était plus que probablement l'exécution d'une convention faite déjà par la diplomatie. Louis partit avec sa femme pour la Hollande. Les couronnes royales n'ont pas le privilège que les anciens attribuaient aux couronnes de lierre. Elles ne préservent pas de l'ivresse, au contraire. Louis prit sa royauté au sérieux. Il ne comprit pas que les couronnes données par Napoléon à ses frères étaient des euphémismes brillants, et que ces rois nommés par lui n'étaient ni plus ni moins que des préfets recevant les ordres des Tuileries. Le rôle assigné particulièrement à Louis avait un côté assez odieux. L'intention arrêtée déjà de Napoléon était d'incorporer et d'annexer la Hollande à la France, et le roi, Louis, devait opérer la transition. Appelé à Paris, il s'avisa de dire à son frère « La Hollande est lasse d'être le jouet de la France !» Et de retour dans ses états, les trouvant déjà envahis par une armée française commandée par le duc de Reggio, il rassembla au pavillon royal de Harlem ses ministres et ses généraux. Il croyait avoir des généraux et des ministres, et proposa une défense désespérée en commençant par percer les digues et inonder Amsterdam plutôt que de la livrer aux Français, etc. Cet avis fut repoussé par le Conseil. Le duc de Reggio entra dans la capitale avec l'armée française et Louis s'en alla à Teplitz. Son frère, par un décret du 10 juillet 1810, réunit la Hollande à la France et Amsterdam reçut le titre de troisième bonne ville de l'Empire français, Paris et Lyon étant les deux premières. Revenons sur nos pas pour voir ce qui a pu donner lieu au bruit que, dit-on, et il faut l'accepter, on dit qu'avec réserve, le fils de Jérôme a l'intention d'exploiter. Dès avant la nomination de Louis au trône de Hollande en 1806, Hortense et lui vivaient séparés et en très mauvaise intelligence. Cependant, elle consentit à venir en Hollande être reine, et elle arriva avec lui dans ses états le 18 juin 1806. Mais elle ne tarda pas à s'y ennuyer. Et voici comment s'explique à ce sujet l'auteur des mémoires que j'ai sous les yeux. La reine exerçait un grand charme autour d'elle, mais il existait entre elle et le roi une désunion fâcheuse et dont l'évidence affligeait leur cour. Ce qui était dans le secret des antécédents assurait que cet éloignement de Louis pour sa femme existait même avant l'époque de leur mariage décidé entre Napoléon et Joséphine, sans que Louis ni Hortense eussent été consultés. À la suite d'un voyage qu'ils firent ensemble à certaines eaux des Pyrénées au mois d'avril 1807, et comme ils passaient par Paris pour retourner en Hollande, la reine resta à Paris. Donnons encore la parole à l'auteur des mémoires. Louis fit venir une troupe de comédiens français et donna des bals, mais l'absence de la reine frappait ses assemblées, consacrées au plaisir, d'une langueur, d'une monotonie très apparente. On se rappelait combien à la haie sa spirituelle vivacité savait animer les cercles où elle brillait avec tant de charme. Et un peu plus loin, Louis, en allant souvent au spectacle, s'était, dit-on, doucement habitué à encourager le talent très distingué d'une jeune émule de la célèbre Mars. Or, la reine ne revint en Hollande qu'en 1809. Elle s'y ennuya encore. La désunion évidente du roi et de la reine attristait leur cour, et elle alla passer quelques jours au château de Loos, et de là, sans que son époux connût ses intentions, elle s'échappa de la Hollande, où le roi, malgré son éloignement pour elle, voulait la retenir. Quelque temps auparavant, Louis avait fait un voyage à Paris, mais, dit l'auteur des mémoires, il descendit chez Madame Mère. Il aurait pu s'occuper de son hôtel, mais la reine l'habitait, et c'était pour le roi une puissante raison de s'en éloigner. Et dans un autre passage, il parle de la santé chancelante du roi de Hollande. Depuis longtemps, des douleurs rhumatismales lui avaient paralysé la main droite, et il boitait des suites d'une chute de cheval. Et ailleurs, le roi était habituellement d'une mauvaise santé, et cette disposition, qui augmentait sans cesse, donnait à son caractère quelque chose de triste et de morose. Il éprouvait un malaise presque continuel, etc., etc. Napoléon III, est né à Paris, aux Tuileries, le 20 avril 1808. Or, on rappelait que la reine avait quitté son mari en 1807, après un voyage aux Pyrénées et entrepris au mois de mai 1807. Voyage après lequel les époux ne se revirent qu'en 1809. Et la malveillance prétendait qu'ils étaient très probablement séparés au mois d'août 1807, époque de la conception probable de Louis-Napoléon, parce que, disaient les ennemis, le roi ne pouvait rester plus longtemps hors de ses états et qu'on ne peut admettre que cet absent de la Hollande se fût prolongé plus de 3 mois. Mais ce que la malveillance prétendait, elle ne le prouvait pas. Cette absence peut avoir été assez longue, car elle le fut trop pour son peuple. Ce fut pendant cette absence qu'eut lieu le traité de Tilsit, où il s'agissait de puissants intérêts pour la Hollande. Donc la malveillance a beau rapprocher et la mauvaise santé du roi et son éloignement pour la reine et leur séparation en 1807, et d'autres circonstances dont il ne me convient pas de parler, elle ne peut en tirer que des probabilités, mais point de certitude. Si l'on se rappelle surtout, en l'appliquant aux tendresses conjugales, ce que les musulmans disent à propos de l'adultère, on peut supposer une femme coupable dès l'instant qu'elle est restée enfermée seule avec un homme, le temps de faire cuire un œuf à la coque. La séparation du roi et de la reine de Hollande en 1807 a pu donner lieu à des commentaires, mais ne fournit nullement les conditions d'une preuve. Ce qui s'est passé en Hollande pendant le séjour de Louis et Napoléon d'Hortense aux Pyrénées, portant au contraire à croire qu'il a pu se prolonger jusqu'au mois d'août, malgré les puissantes raisons qui, d'autre part, devaient le rendre plus court. Mais ce qui est tout à fait prouvé, c'est l'irritation qu'avait conservée Napoléon contre son frère Louis, et qui ne le montre pas disposé à appeler sa descendance à sa succession. Il suffit de lire quelques passages de ses lettres à ce frère presque rebelle. Avant de citer ces passages, j'en extrairai 3 phrases intéressantes. « Il faut qu'une chose soit faite pour qu'on avoue d'y avoir pensé. » 27 mars 1808. Je ne me sépare pas de mes prédécesseurs depuis Clovis jusqu'au Concile du Salut Public. Je me tiens solidaire de tout. 20 décembre 1808. Comment la connaissance de mon caractère, qui est de marcher droit à mon but, sans qu'aucune considération puisse m'arrêter, ne vous a-t-elle pas éclairé? 20 mai 1810. 17 août 1808. Il est inutile de me faire des étalages de principes. 20 décembre 1808. Monsieur mon frère, je réponds à la lettre de Votre Majesté. Votre Majesté, en montant sur le trône de Hollande, a oublié qu'elle était française. Votre Majesté a imploré ma générosité, fait appel à mes sentiments de frère et a promis de changer de conduite. Votre Majesté est revenue à son système. Il est vrai qu'alors j'étais à Vienne, et j'avais une pesante guerre sur les bras. Vos maréchaux sont une caricature. 20 mai 1810, mais vous brisez vous-même votre sceptre. En vous mettant sur le trône de Hollande, j'avais cru y placer un citoyen français. Vous avez suivi une route diamétralement opposée, et je me suis vu forcé de vous interdire la France et de m'emparer d'une partie de votre pays. Vous vous montrez mauvais français. Le sort en est jeté, vous êtes incorrigible. Vous ne voulez pas régner longtemps. Soyez bon français de cœur, ou votre peuple vous chassera, et vous sortirez de la Hollande l'objet de la risée des Hollandais. C'est avec de la raison et de la politique que l'on gouverne les États, et non avec une lymphacre et viciée. 23 mai 1810. Par vos folies, vous ruinez la Hollande. Je ne veux pas que vous envoyiez le ministre en Autriche. Ne m'écrivez plus de vos phrases ordinaires. Voilà 3 ans que vous me les répétez, et chaque instant en prouve la fausseté. C'est la dernière lettre de ma vie que je vous écris. Oh, ce ne sont pas, certes, là des dispositions fraternelles ni amicales. Elles ne durent pas s'améliorer lorsque Louis, s'évadant du trône, se réfugia en Bohême, refusa d'obéir à l'ordre qui lui fut transmis le 12 octobre 1810. L'empereur entend que le prince Louis soit entré en France le 1er décembre prochain, sous peine d'être considéré comme désobéissant au chef de sa famille et traité comme tel, etc., etc. Ni lorsqu'il publia une protestation contre l'usurpation de sorcières à l'égard de la Hollande, etc. En mon nom, au nom de la nation hollandaise, je déclare la prétendue réunion de la Hollande à la France mentionnée dans le décret de l'empereur mon frère en date du 9 juillet passé comme nul et de nul effet, illégal, injuste, arbitraire aux yeux de Dieu et des hommes, dont elle blesse tous les droits, se réservant la nation et le roi de faire valoir leurs justes droits quand les circonstances le permettront. Donné à Teplitz en Bohême, le présent acte écrit est signé de ma main et scellé du sceau de l'État, ce 1er août 1810, signé Louis-Napoléon. Voici du reste ce que Napoléon disait de son frère Louis à Sainte-Hélène. Louis a de l'esprit, il est point méchant, mais avec ses qualités, un homme peut faire bien des sottises et causer bien du mal. L'esprit de Louis est naturellement porté à la bizarrerie. Courant après une réputation de sensibilité et de bienfait, il est incapable par lui-même de grandes vues, susceptible tout au plus de détails locaux. Louis ne s'est montré qu'un roi préfet. Il faut voir comme son frère le traitait quand il essayait d'être autre chose. Les quelques phrases citées ci-dessus n'en peuvent donner qu'une faible idée. Louis n'avait pu être bien avec sa femme que très peu de mois. Beaucoup d'exigences de sa part, beaucoup de légèreté de la part d'Hortense, voilà les torts réciproques. Toutefois, ils s'aimaient en s'épousant, ils s'étaient voulu l'un et l'autre. Là, Napoléon dément un des bruits signalés plus haut. Ce mariage, au reste, était le résultat des intrigues de Joséphine qui trouvait son compte. À mon retour de l'île d'Elbe, Louis m'écrivit une longue lettre pour revenir auprès de moi. Croirait-on qu'une de ses conditions était qu'il aurait la liberté de divorcer avec Hortense? Oh, je maltraitais fort le négociateur pour avoir osé se charger d'une telle absurdité. Peut-être trouverait-on une atténuation au travers d'esprit de Louis, dans le cruel état de sa santé, l'âge où elle s'est dérangée, les circonstances atroces qui l'ont causée, et qui doivent avoir singulièrement influé sur son moral. Il faudrait certes que les sentiments et les opinions de Napoléon se fussent singulièrement modifiés dans le peu de temps qu'il s'écoula jusqu'à la mort, pour qu'il pût faire entrer dans ses prévisions et ses désirs d'avoir pour successeur un fils de Louis et d'Hortense. Mais, si en groupant les circonstances que je viens de rapporter, il était facile à la malveillance d'en tirer des conséquences dont il est question dans le prétendu testament dont on parle, néanmoins, faute de preuves évidentes, il faut toujours en revenir à la loi. Is pater est quem nuptiae demonstrant, et à l'œuf à la coque. Je ne veux pas croire à ce projet que l'on prête au prince fils de Jérôme. Et eût-il pensé un moment à tirer ce pétard, le bon sens, on dit qu'il en a, le ferait hésiter en pensant qu'on lui objecterait, qu'il n'a jamais, du moins publiquement, émis de Dieu sur la légitimité de son cousin, tant que ce cousin était empereur des Français, et lui a donné des titres, des grades et, dit-on, beaucoup d'argent. Du reste, abandonnant le point qui conteste la paternité de Louis, si on veut appuyer le bruit en question sur les dispositions de Napoléon à l'égard de Louis et d'Hortense, on pourrait répondre par le portrait que fit à Sainte-Hélène le même Napoléon de son plus jeune frère Jérôme, le père du prince Napoléon. Jérôme était un prodigue dont les débordements avaient été criants. Il les avait poussés jusqu'au hideux du libertinage. Son excuse, peut-être, pouvait se trouver dans son âge et dans ce dont il s'était entouré. Cependant, il faut tout dire, les dernières impressions de Napoléon étaient plus favorables, et surtout il prenait beaucoup plus au sérieux la mère du prince Napoléon que sa belle-fille, la reine Hortense. Du retour de l'île d'Elbe, Jérôme semblait avoir beaucoup gagné et donné de grandes espérances. Jérôme, en mûrissant, eût été propre à gouverner. Je découvre en lui de véritables espérances. Il existait un beau témoignage en sa faveur, c'est l'amour qu'il avait inspiré à sa femme. La conduite de celle-ci, lorsque, après ma chute, son père, ce terrible roi de Wurtemberg, si despotique, si dur, a voulu la faire divorcer, est admirable. Cette princesse s'est inscrite dès lors de ses propres mains dans l'histoire. Combien de fois on a dit de moi, comme il a eu raison à telle époque, sans presque jamais dire, comme il a raison aujourd'hui. On regrettera de ne pas l'avoir écouté plus attentivement et de l'avoir laissé parler dans une sorte de désert relatif, vox clamantis in deserto. Et on lui rendra alors quelque justice. Certes, il m'eût été agréable qu'on n'attendît pas ma mort pour me la rendre, cette justice, et qu'on m'en escomptât une partie de mon vivant, mais tel est le sort. On attend pour donner quelques louanges à un homme, que ça ne puisse plus lui faire de mal, et que ça ne serve qu'à rabaisser ceux qui le survivent. Lorsque je me vois seul marcher en sens inverse de l'opinion publique du moment, comme un homme qui remonte le courant d'une foule, aidez-vous ses côtes au coude d'autrui. Il m'arrive parfois de douter de moi et de me demander si ce n'est pas moi qui me trompe. Mais lorsque l'événement vient me donner raison, lorsque la bourgeoisie censitaire de 1830 a renversé, sans le faire exprès, le trône de Louis-Philippe, ou plutôt son propre trône, comme j'en avais menacé tant de fois, lorsque les ultras et les pseudo-républicains ont fait l'Empire, comme je l'avais prévu, lorsque l'Empire est tombé par les causes que j'avais vues et annoncées, lorsque la Troisième République a été à peu près tuée par ses prétendus enfants, et précisément comme je le crie depuis 2 ans, je ne puis m'empêcher de dire moi-même, j'avais raison, je ne m'étais pas trompé, j'avais bien vu. Je crois bien qu'aujourd'hui encore je vois clair, je vois bien, je vois juste. Et ce que je vois aussi, c'est qu'on attendra l'événement, et l'événement sera une catastrophe pour dire encore, comme il avait raison hier, il y a un an, il y a... En n'essayons pas de voir au-delà d'un an. Il est un mot, un nom qui a 2 sens en français, c'est le nom de Cassandre. Cassandre était la fille de Priam, qui avait reçu le don de prophétie, mais qui, ayant refusé de payer ce don au gré du galant Apollon, fut condamnée à n'être jamais crue. Cassandre, c'est aussi le nom, dans l'ancienne comédie, des pères ganaches, dupés, bafoués, qui n'écoutent ni les avertissements ni les conseils et réservent leur confiance à Pierrot qui les vole, à Arlequin qui caresse leur fille, à Scapin qui les met dans le sac et leur donne des coups de bâton. Les Cassandres, ceux qui haussent les épaules, quand Cassandre leur dit « Défiez-vous de Pierrot, d'Arlequin et de Scapin !» Lorsque le cheval de bois, machina foeta armis, entre dans les murs de la ville par une brèche qui font les Troyens eux-mêmes, Cassandre, dit Énée, ouvre la bouche et nous prédit ce qui allait arriver. Tunc etiam fatis aperit Cassandra futuris aura. Mais Apollon avait décidé que les imbéciles troyens ne la croiraient jamais. Dei iussu nanumquam credita teucris. J'ai, il est vrai, et part dans le monde, un auditoire d'amis connus et inconnus qui me lisent fidèlement depuis 30 ans, dont quelques-uns me crient de loin. Courage, vous avez raison, nous sommes avec vous. Mais ils sont tous éparpillés, ne forment pas corps, sont isolés comme moi, un peu paresseux ou découragés, et s'occupent au point de multiplier mes lecteurs. Les moineaux se réunissent sur les toits pour se chamailler, les oies volent en troupe, les hannetons et les chevilles s'amassent en bas, mais les rossignols vivent et gazouillent solitaires dans les aubépines. J'ai quelquefois cherché le secret du peu d'influence que j'exerce sur le présent, en même temps qu'une certaine autorité à l'égard du passé. Et voici ce que j'ai trouvé. Il y a toujours en France une folie épidémique dominante, régnante, tout le monde devenant fou à la fois et de la même folie. Personne ne s'aperçoit de la folie commune. Lorsque tout le monde va aux Tuileries ou à l'hôtel de ville, que deux ou trois veuillent arrêter cette foule et marchent en sens inverse, on les bouscule, on les fait tourner. Ils sont heureux si on ne les foule pas aux pieds. Tout le monde crie. Vive la Charte, vive la Réforme, à Berlin! Qui peut entendre une seule voix qui dit « Ne crions pas tant et agissons mieux !» À ces cris tumultueux, d'autres cris ne tarderont pas à succéder. La foule prendra bientôt une autre direction, mais ce seront des clameurs aussi violentes, aussi furieuses, aussi assourdissantes, des « abats » remplaçant des « vivas ». Une folie contraire, mais une folie égale, une course aussi effrénée, mais dans le sens précisément contraire. Hier on courait à Charybde, aujourd'hui on court à Scylla, toujours on court et toujours à l'écueil. L'écrivain, l'homme politique, le philosophe, qui ne partage pas la folie du moment, n'est jamais l'objet de cette popularité enthousiaste, de cet engouement, qui seront un peu de temps de là remplacés par le dénigrement et le mépris, lorsque viendra le moment de s'enthousiasmer, de s'engouer pour la folie contraire. L'homme qui marche seul, qui ne s'affilie à aucun parti, à aucune coterie, à aucune complicité, non seulement n'a point d'alliés, mais encombre les chemins, ralentit et éclaire la marche, et semble un témoin importun, peut-être moqueur, peut-être dénonciateur. C'est au moins un gêneur, c'est peut-être un gendarme. Un publiciste a dit « En politique, oh, l'indépendance, la modération, l'impartialité, c'est la condamnation à l'isolement. En politique, tous les hommes suspects de bonne foi sont tenus en quarantaine perpétuelle par les coteries. Ainsi, voyez ma situation à l'égard du parti soi-disant républicain. Je professe les principes qu'ils abordent. J'attaque les abus qu'ils feignent d'attaquer. Je dis ce qu'ils braillent, je demande le progrès qu'ils font semblant d'exiger. Mais il s'agit bien des principes, des abus et des progrès. Il s'agit d'une association, d'un complot entre les membres d'une coterie, combattant sous un drapeau de pièces et de morceaux, la culotte d'Arlequin au bout d'un bâton, pour arriver au partage du butin. Lorsque la partie est finie, gagné par les uns, perdu par les autres, lorsque les enjeux sont ramassés, les gagnants n'ont plus peur qu'on dévoile leur tour, leur truc, comme on dit aujourd'hui. Les perdants ont pris leur parti, songeant à la revanche, ne sont pas fâchés qu'on leur dise pourquoi et comment ils ont perdu. Autre point, je n'ai ménagé aucune vérité au gouvernement de Louis-Philippe, mais lorsqu'il est tombé, j'ai écrit... Je regrette de n'avoir pas été l'ami de cette famille pour avoir le resté. J'ai harcelé sans relâche Napoléon III tant qu'il a été debout et puissant. Lorsqu'il a été renversé, j'avais dit tout ce que j'avais à dire, je me suis tu. Alors les couards ont pensé que c'était le moment de se montrer. Ils ont sorti le museau de leur cave et ils ont crié, braillé, hurlé les invectives, les injures, les grossièretés. Et un jour, comme moi je me taisais, ils m'ont appelé bonapartiste. Pendant le règne de Monsieur Thiers, j'ai rappelé son passé. J'ai dit quelle crainte on en pouvait, on en devait concevoir pour l'avenir. Quand il a été à terre, j'ai pensé que la besogne était faite. On ne m'a pas, que je sache, encore appelé thiériste. Mais je ne dis pas tous les bons petits carrés du papier qui s'incriment d'ailleurs en ce moment. On accable de juin jouant celui qu'on appelait naguère le sinistre vieillard. On essaye d'atteler de nouveau avec des guirlandes de fleurs le cheval de renfort qui a un moment rompu ses harnais. Et le plus souvent, on répète, quand il n'y a plus de danger, ce que j'ai écrit au moment du combat. Ce qui fait que je suis toujours seul. Or, comme je ne compte pas changer ni de caractère ni de manière de voir et d'agir, il en sera toujours de même jusqu'à la fin. Et il faut s'y résigner et attendre. Ô bourgeois, successeur des rois, et roi toi-même aujourd'hui, que ta destinée est grande et que ton pouvoir est immense, tu as attaqué tous les abus, tous les privilèges, et tu as eu soin de ne pas trop les détériorer. Tu les possèdes aujourd'hui, et grâce à tes précautions et à tes ménagements, ils sont encore en assez bon état pour exciter l'envie d'une autre classe qui a pour le moment ramassé ton ancienne indignation contre ces mêmes abus, en attendant qu'elle puisse à son tour les conquérir. Ô bourgeois, tu es roi, tu es législateur, tu es militaire, tu es tout ce que tu as daigné être, et cela sans études accablantes, sans soucis rongeurs. Cela, à mesure que tu te fatigues d'être ferblantier, ou que tu t'ennuies d'être droguiste, ou que tes facultés un peu éteintes semblent à ton fils ou à ton gendre ne plus suffire à ton commerce de bonneterie. Bourgeois, tu règnes et tu gouvernes. Bourgeois, tu as escompté le royaume du ciel qui t'était promis contre le royaume de la terre. Bourgeois, tu es grand, tu es fort. Tu es nombreux surtout, etc. C'est la bourgeoisie qui a renversé l'ancienne royauté et l'ancienne aristocratie. Le peuple n'y a contribué que de quelques coups de fusil, tirés et reçus sans savoir pourquoi. Et cela devait être ainsi. La haine la plus vivace est celle qui a pour origine l'envie. L'envie est une sorte d'amour lâche et honteux. L'on envie comme l'on aime, que ce qui a un certain degré de possibilité. Le peuple n'enviait pas le faste et les dignités de l'aristocratie. Cela était trop loin de lui pour que les yeux en fussent blessés ou éblouis. La bourgeoisie s'est faite un roi bourgeois, avec un chapeau gris pour couronne et un parapluie pour sceptre. Puis les talons rouges de la finance, les rouées du comptoir s'en sont donnés à cœur joie. Ils se sont mis à jouer gauchement de leur petit mieux, à parodier les rôles de ceux qu'ils avaient supplantés, avouant ainsi qu'ils les avaient attaqués non par haine pour les renverser, mais par envie pour prendre leur place. Ils se sont gorgés de tout. Ils ont mis de vieilles armoiries sur leurs voitures et sur leurs papiers à lettres. Ils ont fait rouler leur vaisselle d'argent par les escaliers pour la bossuer et lui donner un air d'argenterie de famille. Ils se sont emparés de tout, ils sont devenus tout. Malheureusement, pour eux, les bourgeois n'ont pas compris leur situation. Ils ressemblent à la chatte métamorphosée en femme de la fable, qui, en voyant une souris, se jeta à quatre pattes et la poursuivit sous le lit. Ils ressemblent à ce garçon de café devenu millionnaire, qui, surpris par un bruit de sonnette, ne pouvait s'empêcher de crier « Voilà !» Il s'était accoutumé à attaquer la royauté. Et aujourd'hui, sans le faire exprès, ils ne peuvent s'empêcher, un peu par air et beaucoup par habitude, de se mêler aux attaques dont la nouvelle royauté est l'objet à son tour. Ils ne voient pas, les malheureux, que c'est leur royauté à eux, que c'est eux qu'on attaque, que c'est eux qu'on veut détruire. Louis-Philippe est un roi bourgeois, et le roi des bourgeois. Ils devraient se relayer autour de lui pour défendre de tout ce qu'ils ont de courage et de sang chacun des poils de sa barbe. Car s'ils le laissent renverser, que dis-je, s'ils aident à le renverser, ils sont perdus à jamais. Ils expriment leur usurpation et leur orgie à laquelle ils se livrent avec tant de confiance. Leur puissance deviendra un rêve pour eux-mêmes, et leurs enfants refuseront d'y croire. La royauté se meurt, la bourgeoisie se tue. Eh bien, ce que je viens de dire à la bourgeoisie et à propos de la bourgeoisie, c'est en 1841, octobre, et en 1846, juillet, que je l'écrivais dans les guêpes de ce temps-là, où il est facile de le retrouver. Si je reproduis ce fragment, c'est pour prouver à mes lecteurs que j'ai la vue bonne, que je prévoyais ce qui allait arriver, même les nouvelles couches sociales, et par conséquent leur donner confiance en ce que je leur dis aujourd'hui. Car aujourd'hui, j'ai la conviction que je ne me trompe pas davantage. Je sais, je vois. Les nouvelles guêpes ont dit et disent des vérités bien importantes, bien salutaires, sur presque tous les points. Et je crains qu'il ne m'arrive encore. Après moi, sans doute, cette fois, ce qui m'est arrivé toute ma vie. Et cependant, quand l'Assemblée était encore à Bordeaux, les guêpes n'ont-elles pas annoncé la Commune? N'ont-elles pas lu dans le passé de M. Thiers le rôle qu'il joue aujourd'hui? Mais voir d'un peu loin, avoir raison trop tôt, ça ne sert pas beaucoup aux autres, et ça inflige à celui qui a cette infirmité le supplice que subit l'homme qui va du Palais-Royal à la Bourse en descendant la rue Vivienne, à l'heure où la foule la remonte, et de la Bourse au Palais-Royal pour aller dîner, ses côtes sont vouées aux coudes de ses concitoyens. La loi électorale d'abord. C'est le pilotis indispensable pour bâtir dans le marécage où nous barbotons en attendant que nous y noyions. Mais arrêtons-nous un moment encore sur le rapport de M. de Ventavon et sur la nécessité de mettre un terme à la guerre civile où vit la France depuis 3 ans. Guerre où l'on pointe encore les armes à la main, mais où chacun aiguise ou charge les armes. Il est inutile de faire des enquêtes sur les complots des bonapartistes. Pourquoi cette enquête? Tout le monde sait bien que les bonapartistes conspirent. Mais les légitimistes aussi conspirent. Mais les pseudo-républicains aussi conspirent. Qu'est-ce qui ne conspire pas? Tout le monde conspire. Et à peu près de la même manière. Chaque parti voudrait que le maréchal empêchât les autres de conspirer. Cela me rappelle l'histoire d'un usurier qui va au sermon. On prêchait précisément contre l'usure. Notre homme est très touché, passe plusieurs fois sa manche sur ses yeux, et le sermon fini va féliciter le prédicateur. « Ah, mon père, que vous avez bien parlé! Quelle joie, quelle éloquence! Combien je vous remercie pour ma part !»« Mais, répondit le prédicateur, voyez comme on est méchant ici et comme il faut se défier des langues. Ne m'avait-on pas assuré que vous étiez le plus formidable entre les 4 usuriers qui ruinent cette ville? On ne vous a pas trompé, mon père. Mais alors aurais-je été assez heureux pour vous dégoûter de ce métier? Oh, pas le moins du monde, mon père. Mais j'espère que vous aurez dégoûté mes 3 concurrents. Est-il donc vrai que ce peuple, autrefois si spirituel, soit devenu assez bête pour qu'il y ait un danger sérieux pour lui dans ses exhibitions de portraits, dans cette lutte de photographie à laquelle se livrent les légitimistes et les bonapartistes? Virgile peint les abeilles voltigeant autour des lys et remplissant l'espace de murmures menaçants. Mais il nous dit que cela se passe sur les rives du Léthé, où les uns et les autres vont boire les longs oublis. Les pseudo-républicains ne distribuent pas de portraits. Ils n'en ont pas besoin. D'abord, ils ne sont pas jolis, et d'ailleurs, si la France est privée pour le moment de voir messieurs Pillat, Vermeersch, etc., tous les jours à la gare Saint-Lazare, on peut contempler messieurs Naquet, Gambetta, etc., etc. Je ne me rappelle pas si j'ai cité déjà un exemple curieux de cette bizarrerie que j'ai trouvée dans l'histoire. Maximin associa son fils à l'Empire et n'en donna pour raison que la beauté du jeune homme. « J'ai nommé mon fils empereur, écrit-il au Sénat, pour que le peuple romain et le Sénat puissent dire qu'ils n'ont jamais vu un plus bel empereur. » L'annonce et la réclame appliquées au suffrage universel doivent faire rire les autres peuples. « Pas de n'importe quoi ou même rien du tout, disait le bourgeois de Paris. Annoncez-le énormément et vous en vendrez tant que vous voudrez. » Je m'étonne qu'on n'ait pas encore promis des primes, une montre à remontoir, par exemple, aux électeurs qui voteront pour l'un ou pour l'autre des prétendants. Villemain se plaignait un jour de la haine des partis. « Qu'ils m'attaquent, disait-il, j'ai été, je suis aux affaires. Mais que leur ont fait mes deux pauvres petites filles pour qu'on les repende le bruit qu'elles me ressemblent ?» Monsieur de Chambord prétend avoir étudié l'histoire. Nous savons l'histoire qu'on leur enseigne. Il est toute une bibliothèque où chaque volume porte en lettres d'or, sur la couverture, ces mots significatifs, expurgés à l'usage du dauphin. Expurgatum ad usum delphini. Il devrait savoir que Louis XIII est l'inventeur du tricolore, incarnat, bleu et blanc, qui s'était emparé des trois couleurs et y tenait beaucoup. En effet, dans une ordonnance du 25 septembre 1629, on lit « Fait très express défense à toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, de faire porter dorénavant à leurs pages et laquais des habits d'incarnat bleu et blanc, dont sont vêtus les pages, valets à pied et autres officiers du roi, et à tout ailleurs d'habits fripiers, etc., de faire ou vendre des habits de ces couleurs, sous peine d'être déclaré infâme, de subir la confiscation et une punition corporelle. » Fort de ce précédent, M. de Chambord ne se fut peut-être pas exposé à remporter son drapeau blanc. Un mot de Jules Janin. On lui envoie un jour une feuille qu'il ne recevait pas d'ordinaire. « Tiens, pourquoi l'envoie-t-on ce journal ?» lui demanda M. Burette. « Bon, c'est probablement qu'on m'y abîme. » Il déchire la bande et lit. « Eh bien, dit Burette, que disent-ils ? Oh, peu, que j'ai pas d'esprit, bon, des bêtises. » M. le comte de Chambord, voulant absolument faire quelque chose de son drapeau blanc, vient d'en faire le linceul de la légitimité et de la royauté du droit divin. Le 7 septembre 1870, on était en pleine guerre, les citoyens, membres de la commission départementale provisoire du département de l'Isère, séant à Grenoble, n'ont rien de plus pressé que de briser les entraves que la tyrannie avait imposées aux citoyens marchands de vin et cabaretiers, et à leur honorable clientèle, buveur très précieux, orateur de balcon, homme politique de taverne et travailleurs altérés. Tous les gouvernements qui voulaient vivre et pensaient qu'il fallait montrer au moins un semblant de moralité avaient placé les cafés, cabarets, tavernes, etc. sous une surveillance spéciale. Oh, ces temps-là sont passés. Il n'y a pas assez, il ne saurait y avoir trop de ces endroits où l'on vend le vin frelaté, l'ivresse, la haine, la folie, l'abrutissement au litre et à la bouteille. Voici le morceau. Par dérogation au régime de la liberté industrielle, l'ouverture et l'exploitation des débits de boissons ont été subordonnées à une autorisation préfectorale par un décret du 29 décembre 1851. Ce décret doit aujourd'hui être considéré comme non avenu. En conséquence, l'établissement de tout café, cabaret ou autre débit de boisson est placé dans l'étendue du département de l'Isère sous le régime du droit commun. Grenoble, le 7 septembre 1870, la commission départementale provisoire, Julière, Okoura, Bouyer-la-Pierre et Dupoux à Brun. L'introduction d'abord, l'invasion ensuite des avocats dans les assemblées publiques a corrompu et avili le langage parlementaire. Je voudrais affirmer et expliquer ce fait incontestable, selon moi, sans commettre d'injustice envers de grands et réels talents et sans blesser les quelques amis que j'ai dans cette profession. Ce n'est pas une attaque que je veux faire, c'est une observation. Les avocats aiment à s'intituler les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. J'ai fait remarquer déjà que la veuve et l'orphelin n'auraient pas besoin d'un avocat qui les défendît s'ils ne se trouvaient pas en face d'un avocat qui les attaqua. La profession d'avocat amène nécessairement ceci, que celui qui l'exerce doit combattre souvent pour une cause qui ne l'intéresse en rien, pour une cause qui n'est peut-être pas la bonne, de telle sorte que s'il eut à choisir, il se fût chargé plus volontiers de la cause adverse. Il s'ensuit naturellement que les colères sont feintes et les emportements simulés, que c'est une escrime où l'on s'agite beaucoup, où l'on frappe bruyamment la terre avec des sandales retentissantes, où l'on voit briller et s'entrebloquer avec un bruit strident des lames de fer, mais où les fleurets innocents sont bouffonnés, les poitrines préservées par un plastron et le visage garanti par un masque. Il serait du plus mauvais goût de se fâcher d'un coup de bouton de plus ou de moins reçu dans l'assaut. On prendra sa revanche un autre jour, et l'on voit souvent deux avocats en sueur, après s'être exprimés avec ardeur l'un contre l'autre, après avoir échangé les démentis, les imputations, les accusations les plus flétrissantes, traverser en se tenant par le bras la salle des pas perdus et s'en aller déjeuner ensemble à un certain café dont j'ai oublié le nom, oh, le café d'Aguesso, je crois, sur la place du palais de justice. Cette indifférence avec les horions échangés, cette immunité convenue, les avocats représentants les transportent dans les assemblées et ne remarquent pas toujours assez qu'ils sont souvent pour adversaires dans la discussion des hommes qui n'ont pas les mêmes habitudes et peuvent se sentir et se déclarer offensés de certaines intempérances, de certains lapsus de langue qui n'ont rien de choquant entre avocats. Ajoutez que ce ne sont pas le plus souvent les premiers, les plus disert d'entre les avocats qui abandonnent le palais pour la chambre, les maîtres de la parole, les véritables orateurs, et que ce sont le plus souvent ceux qui n'ont pas su se faire une place dans leur profession, des avocats de cour d'assises, quelque chose comme les acteurs de mélodrames, habitués à tenir beaucoup plus de compte de l'action souvent immodérée, de l'emphase, de la boursouflure, des grands gestes, des éclats de voix, des coups de poing sur la barre, que des artifices et des délicatesses du langage, de la science, de la discussion, de la force des arguments, etc. Certes, s'il y avait dans une assemblée qu'un, deux, trois, 10 avocats, ils prendraient graduellement le diapason de cette assemblée et perdraient l'accent du terroir, comme la plupart des gens du Nord et du Midi perdent plus ou moins leur accent à Paris s'ils ont soin de ne pas y vivre entre eux. Mais comme ils sont beaucoup plus, beaucoup trop nombreux, comme ils parlent plus souvent et plus longtemps que les autres, au lieu de prendre le diapason, ils l'imposent, et au lieu de perdre leur accent, ils le donnent aux autres. Et on arrive à cet oubli des convenances, à ces échanges d'injures quelquefois grossières, auxquels il nous est donné d'assister, et qui tiennent plus de l'engueulement que de l'éloquence, et conduisent naturellement au pugilat. Ajoutez encore que, par suite de l'habitude du palais, Les avocats, accoutumés à ne pas s'offenser et de certaines intempérances, sont tout étonnés quand d'autres s'en offensent et ne se croient pas obligés de donner des réparations qu'ils ne demanderaient pas.